Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, votre rendez-vous d'information avec vous, Marc-Aurel Barrez. Au sommaire de cette édition, 19 morts dans le sud du Liban après des frappes israéliennes, les combats se poursuivent entre le Hezbollah et l'armée israélienne. L'Iran promet d'étendre la guerre au-delà de la région du Moyen-Orient en cas d'attaque américaine. Et dans votre dossier du jour, nous écouterons Catherine Vautrin, la ministre des Armées, cela au lendemain de l'adoption par l'Assemblée nationale de 36 milliards d'euros supplémentaires pour la loi de programmation militaire 2024-2030. Et nous parlerons aussi de l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne prévue à la rentrée prochaine. Enfin, Emmanuel Dupuis, spécialiste du Sahel, nous parlera de la situation plus qu'incertaine que connaît aujourd'hui le Mali. Nous le disions dans les titres, 19 personnes ont été tuées hier dans des frappes israéliennes au sud du Liban, d'après le ministère de la Santé libanais. Cela alors que le Hezbollah a fait état d'affrontements avec l'armée israélienne dans le sud du pays. Un soldat israélien a été tué hier. La tension monte au Moyen-Orient. La Jordanie dit avoir abattu un drone d'origine inconnue dans son espace aérien. Le même temps, les gardiens de la Révolution promettent d'étendre la guerre au-delà de la région en cas de nouvelles attaques israélo-américaines. Donald Trump qui dit avoir annulé une attaque prévue hier sur l'Iran. Il a aussi annoncé donner quelques jours supplémentaires à Téhéran avant une éventuelle reprise des hostilités. Le président russe Vladimir Poutine en visite en Chine aujourd'hui auprès de son homologue Xi Jinping. But du rendez-vous, montrer une relation à toute épreuve entre les deux pays. Cela malgré les turbulences géopolitiques. Le chef d'État chinois parle d'une confiance politique mutuelle et une coordination stratégique menée avec une persévérance inébranlable. Fin de citation. Dans un tout autre volet maintenant, l'Union européenne devrait approuver ce mercredi une réforme majeure de sa politique migratoire. Elle devrait ouvrir la voie à la création de centre pour migrants hors territoire européen. Le texte inclut des règles et des sanctions plus strictes pour les migrants refusant de quitter l'Union. Alors enthousiasme des droites au Parlement, inquiétude à gauche qui juge le projet contraire au droit international. Une première maintenant pour la capitale lituanienne Vilnius. Une alerte aux drones a fait descendre le président, la première ministre et la population aux abris. Les alertes de ce type se multiplient ces derniers mois dans les États baltes, cela en raison de la multiplication des frappes ukrainiennes sur des cibles russes dans la région de Saint-Pétersbourg. Et dans le reste de l'actualité, les 430 membres de la nouvelle flottille pour Gaza, celle qui avait été interceptée lundi au large de Chypre par la marine israélienne, sont en route pour Israël. Là, ils seront mis en contact avec leurs représentants consulaires, annonce faite par le ministère des Affaires étrangères israélien. Nouvelle déclaration de l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Elle parle d'un risque épidémique élevé au niveau national et régional, faible au niveau mondial. L'OMS ajoute que l'épidémie d'Ebola ne répond pas aux critères d'une urgence pandémique. Enfin, en France, Édouard Philippe, candidat à l'élection présidentielle, est visé par une enquête pour détournement de fonds publics, favoritisme et prise illégale d'intérêts au Havre, la ville dont il est maire. C'est ce qu'a indiqué le Parquet national financier. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre écoute. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. 36 milliards de plus pour les armées, c'est ce qu'ont approuvé les députés de l'Assemblée nationale hier. Ils votaient sur la révision de la loi de programmation militaire 2024-2030 qui doit porter les dépenses militaires à près de 436 milliards d'euros d'ici la fin de la décennie. Catherine Vautrin, la ministre des Armées, a justifié ce budget ce matin sur France Info. Selon elle, face aux évolutions de la géopolitique mondiale, l'armée française doit se fournir en matériel.
Évidemment, nous devons faire évoluer, accompagner nos équipements. On parle des drones matin, midi et soir. Nous avons besoin de drones. Nous avons besoin de lutte anti-drones. Voilà typiquement des équipements qu'il faut acquérir. Nous avons besoin de plus de munitions parce que si vous voulez une armée entraînée, encore faut-il qu'elle puisse tirer à balles réelles, tirer tout type de munitions et donc cela nécessite de pouvoir les remplacer. Ce sont l'ensemble de ces éléments que nous allons acquérir. Et puis un autre élément très important, c'est la maîtrise de notre territoire, c'est la maîtrise de l'information, c'est la maîtrise de la communication. Et ça, c'est l'espace, d'où des crédits pour avoir plus de satellites, pour être plus souverain dans ce domaine, par exemple. Ce qui est certain, c'est que notre volonté, c'est évidemment d'être toujours en avance. Pour gagner une guerre, il faut l'avoir anticipée. Pour l'avoir anticipée, il faut l'avoir prévue. Ce que l'on voit, c'est que non seulement le monde a changé, mais si nous prenons les retours d'expérience de l'Ukraine, les retours d'expérience de 71 jours maintenant au Proche et Moyen-Orient, nous voyons que nous avons besoin, par exemple, de beaucoup travailler sur la défense de notre ciel. Ça veut donc dire travailler sur notre aviation de chasse, ça veut dire travailler sur la lutte anti-drone. Tout ça, derrière, c'est tout ce que nous faisons avec nos armées, les industries de l'armement. Je rappelle que la France est le deuxième pays exportateur en matière d'armement. Ce sont 240 000 emplois sur le territoire. Et c'est un point très important parce que quand on dit que nous mettons 36 milliards de plus entre maintenant et 2030, ce sont autant de commandes pour l'industrie de l'armement qui, à plus de 80%, est une industrie française.
Catherine Vautrin, la ministre des Armées, c'était ce matin chez nos confrères de France Info. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les étudiants étrangers hors Union européenne. La majorité d'entre eux devra payer des droits d'inscription plus élevés dès la rentrée prochaine dans les universités françaises. François-Xavier de Calonne.
Oui, alors c'est un tour de vis plus modéré que ce qui était initialement redouté, mais une hausse tout de même très importante. Le décret est paru aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, la majorité des ressortissants de l'Union européenne, hors Union européenne, devront payer des droits d'inscription fixés à 2895 euros par an en licence contre 178 euros aujourd'hui et 3941 euros en master contre 254 euros. Alors, vous le voyez, la différence est très importante. Et un autre élément important pour ceux qui bénéficient d'une exonération des frais cette année, sachez que cette exonération sera maintenue jusqu'à la fin de leur cycle universitaire, mais il y a une condition, il faut qu'ils poursuivent les mêmes formations auprès de l'établissement qui leur a accordé cet abattement. Les étudiants qui l'ont obtenu pour 2026-2027 avant l'entrée en vigueur du décret aujourd'hui, en conservent le bénéfice sous les mêmes conditions. Autre point important pour ces étudiants, à terme, jusqu'à 20% des étudiants extra-communautaires pourront être exonérés de ces frais par les universités. Cette évolution passera par deux paliers, un plafond d'exonération à 30% dès la prochaine rentrée, ramené à 25% en 2027.
C'est un sujet qui fait grincer des dents, François-Xavier.
Oui, une première journée de manifestation a rassemblé quelques centaines de personnes, c'était le 12 mai dernier, mais la mobilisation n'est pas terminée. Une intersyndicale appelle à un nouveau mouvement. Le 26 mai, les syndicats jugent cette mesure injuste et incohérente. Alors de son côté, le gouvernement se défend. Il parle d'une logique de rééquilibrage financier et soutient que l'augmentation des frais renforcera la valeur perçue des diplômes français et attirera des profils à fort potentiel. C'est une logique proche de certains pays anglo-saxons. Il y a une exception, le Liban. Emmanuel Macron a pris la décision d'exonérer des frais d'inscription les étudiants libanais inscrits dans les universités publiques françaises pour la rentrée prochaine. Une annonce de l'ambassade du Liban à Paris. Cette annonce avait été commentée et saluée sur Radio Orient par la ministre déléguée chargée de la francophonie et des partenariats internationaux de France, Éléonore Carrère. Cela en raison de la guerre et du partenariat très particulier entre Paris et Beyrouth.
Merci beaucoup François-Xavier de Calonne pour ces précisions. La crise sécuritaire au Mali, le pays est la cible d'une ampleur et d'une coordination inédite menée par le groupe de soutien de l'islam et des musulmans affilié à Al-Qaïda et le Front de libération de l'Azawad, un groupe composé d'indépendantistes du nord du Mali. Les civils qui vivent aussi dans la terreur des crimes de l'armée et des Russes, la situation dans le pays est plus qu'incertaine que jamais depuis fin avril. Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, spécialiste de la région, il sera l'invité de Grand Angle après le flash de 18h. Il nous fait part du caractère inédit et incertain de cette crise.
Incertitude, oui, bien sûr, avec un ultimatum qui a été posé par les deux mouvements que vous citiez, le Front de Libération pour l'Azawad, ou le Front de Libération de l'Azawad au nord du pays, qui a repris possession de la ville de Kidal et dont on dit qu'il serait sur le point de prendre possession de la ville de Sévaré, et puis au sud, autour de Bamako, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou mouvement, organisation liée à Al-Qaïda. Alors, incertitude, évidemment, peser sur la population malienne et plus précisément sur les autorités maliennes. Mais si l'on reprend, si on se remet dans un passé un peu plus long, en 2012-2013, cette coagulation entre un mouvement irrédentiste Touareg et un mouvement djihadiste était exactement la même. À l'époque, le Front Libération de l'Azawad s'appelait le Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, et à l'époque, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans était morcelé dans un certain nombre d'organisations qui avaient toutes prêté déjà allégeance à Al-Qaïda. Donc d'une certaine façon, on y a une sorte de retour sur un agenda dans lequel les groupes djihadistes, narco-djihadistes plutôt, et les organisations irrédentistes de l'Azawad, réclamant donc une séparation avec l'État central malien, se sont coalisés. Ce qui est nouveau, c'est l'amplitude que désormais, qui conforte désormais l'idée selon laquelle une partie du territoire malien échappe bel et bien aux autorités issues du coup d'État militaire de 2020, avec une autre particularité nouvelle, c'est l'éparpillement, à savoir que ces groupes armés djihadistes agissent non seulement au Mali, mais agissent également au Niger, au Burkina Faso, avec une autre nouveauté, si j'ose le dire ainsi, une superposition ou une dualisation avec d'un côté des mouvements qui sont affiliés à Al-Qaïda et d'autres qui sont affiliés à l'État islamique, qui n'ont pas forcément les mêmes agendas. En tout cas, l'État islamique dans le Grand Sahara n'était pas à la manœuvre dans les opérations ayant frappé à la fois Bamako et les villes du nord du Mali.
Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, spécialiste de la région sahélienne. C'est la fin de cette édition. Merci d'y avoir prêté attention. Merci à Mohamed Bizri pour la réalisation et excellente suite des programmes sur Radio Orient.